Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve lundi à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, la littérature. Ce soir, Étienne de Montetier et Laurent Nunez se font face à notre sommaire Les larmes de Pascal Quignard chez Grasset, L'éveil de Lynn Papin chez Stock. Nous évoquerons aussi plus rapidement La main de Tristan d'Olivier Steiner aux éditions des Buclas et Penjab d'Éric Descott. Merci de me souffler la bonne prononciation, Étienne de Montetier, puisque ce sera votre choix. Coup de cœur aux éditions de Fallois. Vers 21h20, nous retrouverons Lucille Comeau dans le petit salon pour débattre avec elle d'un sujet dans l'actualité culturelle. Et bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition L'œil de Baudelaire. C'est à découvrir jusqu'au 29 janvier au Musée de la vie romantique à Paris. Et nous ouvrons cette émission avec le nouveau livre de Pascal Quignard, Les larmes, publié chez Grasset. On pourrait dire, pour résumer, qu'il s'agit de l'histoire de Nithard et de son frère jumeau, Arthnid. Ce serait pas faux, mais ce serait sans doute bien loin de recouvrir tout ce que contient ce livre. Après tout, l'émission musicale, c'était hier, mais le violoncelle, évidemment, ça intéresse Pascal Quignard. Et quand c'est les APK Salonen qui en jouent, c'est encore mieux. Mais pour autant, c'est de littérature qu'on parle ce soir. Et on commence avec vous, Laurent Nunez, pour parler de ce nouveau livre. Alors, c'est écrit roman sur la couverture du livre de Pascal Quignard. Je fais un peu de... Quel est le mot français pour teasing? Il faut que je demande à un Québécois.
Aguichage.
D'aguichage. Vous êtes Québécois,
Pas du tout, mais j'ai appris récemment que l'Académie française préconisait disais pour teasing, aguichage.
Très bien, aguichage. Déjà que je parle de divulgacher ou de divulgachage, aguichage. Donc un peu d'aguichage en disant qu'il y a écrit roman sur cette couverture de Pascal Quignard. Mais bon,
c'est bien voilà, que les premières, les couvertures comme les quatrièmes ne sont pas forcément du ressort d'un écrivain. Enfin, moi j'ai cru longtemps que c'était un... Enfin longtemps, quand je l'ai lu pendant quelques jours, j'entends que c'était un roman. Parce qu'en effet, ça raconte l'histoire de deux frères... faux jumeaux, Arnid et Nithard. J'ai cru que c'était faux d'ailleurs, parce que Nithard, on a l'impression que c'est Quignard, hein. Ça sonne pareil, et c'est lui l'écrivain des deux frères. Écrivain qu'on méconnaît, qu'on ne connaît pas, et on a tort, car si ce qu'il a écrit est un peu difficile d'accès ou même introuvable, il est quand même le premier écrivain de la langue française, enfin de la lingua romana, qui est devenue, qui est l'ancêtre de la langue d'oïl et l'ancêtre de notre langue. C'est donc le premier écrivain.
C'est pas un Gaulois.
Voilà, c'est pas un Gaulois, c'est un Franc. Et c'est donc le premier écrivain de notre ère. Et c'est un livre, mais ça c'est le propre, c'est le grand talent de Quignard. C'est un livre qui tombe pile poil. C'était ce moment-là qu'il fallait qu'il sorte, ce moment où on nous parle des Gaulois, d'une sorte d'identité heureuse, qu'on veut nous reparler du passé. Quignard arrive, la quatrième de couverture. Alors je l'ai pas parce que j'ai les épreuves. La quatrième est très belle. D'ailleurs c'est pas la quatrième, c'était dans l'explication de l'éditeur, et il dit: je n'ai aucun amour pour la terre.
Allez, je l'ai aussi.
Vous l'avez ?
Mais oui.
Ah bah voilà. Oui. On a. Je n'ai jamais ressenti aucun sentiment de nation, aucun sentiment de territoire. Seules les langues m'émerveillent. Et on y est. C'est-à-dire que, en effet, appartenir à un pays, c'est appartenir à une langue, c'est habiter dans cette langue. Et Quignard nous raconte, voilà, nous habitons dans une maison qui est le français. Et ben, il nous raconte les fondations de cette maison entre deux frères que tout oppose. L'un qui va écrire, comme ça, et puis l'autre qui est, alors c'est une figure formidable, Arnid, qui est un frère sauvage, à la recherche, comme souvent dans les romans de Quignard, d'une femme qu'il n'a jamais vue, mais dont il a le visage en tête, et il va rechercher cette femme en échouant. C'est un roman si vaste que au début j'en étais déboussolé sur les 30-40 premières pages, en me demandant où ça partait.
Ce sont vraiment des successions en plus de fragments, de courts récits, presque de chaque fois une fable.
Oui, c'est ça. Oui, c'est une sorte de rhapsodie. Donc c'est très
séquencé.
C'est très délié, voilà, très séquencé. Donc on se demande où ça va, et puis d'un coup tout se rejoint. C'est vraiment c'est en dehors de la mode, en dehors de la rentrée. Ça sort un tout petit peu après la rentrée littéraire. Tout est calculé chez Quignard, c'est un très bon livre.
Bon, alors, quand on a Marianne et le Figaro présenté, on commence par les primaires de la droite, on va passer comme ça, évoqué par Laurent Nunez. Étienne de Montetti, regard sur ce livre de Pascal Quignard.
Bien écoutez, Laurent Nunez m'a volé beaucoup de mots que j'allais utiliser pour parler de ce livre. C'est vrai que c'est un livre très inactuel, même un peu intimidant. Quignard parle latin dans ce livre.
C'est donc seconde langue maternelle.
C'est vrai, oui. C'est vrai. C'est pas inédit.
C'est vraiment le sujet aussi.
C'est pas inédit, mais c'est un livre qui ne fait aucune concession effectivement à la mode ou à l'ère du temps, et qui suit son chemin. C'est vrai que c'est un univers a priori assez inhospitalier, l'émergence d'une civilisation vers le 9e siècle, les temps carolingiens, avec des personnages du Nord, les Normands. Et puis, effectivement, très intéressant, on voit se dessiner, d'ailleurs, dans le rythme du récit, sans s'en rendre compte, des éléments qui n'ont plus du tout un lien avec l'histoire, avec le roman, pardon, mais avec l'histoire. Et il insère dans son récit deux événements considérables. Tout d'abord, le serment de Strasbourg, c'est-à-dire le moment où deux armées qui descendent de Charlemagne décident l'un de parler ce qui sera le français au terme d'un long parcours, et l'autre la langue tudesque. Et lui évoque ça comme une sorte de miracle quasiment surnaturel. Il écrit: c'est alors que le 14 février 842, pas le 13 ni le lendemain, 14 février, Saint-Valentin, à la fin de la matinée, dans le froid, une étrange brume se lève sur leurs lèvres. On appelle cela le français. Et un peu plus loin, également dans cet art de, du récit de la mythologie, au fond. Il écrit une mythologie française, qui est la nôtre, avec l'émergence de l'émergence du français. Il va célébrer ce qui est considéré comme le plus vieux texte de la littérature française, hein, qui n'est pas attribué à Nithard, et qui est anonyme, et qui est la Cantilène de Sainte-Eulalie, hein, 880 ou 82, et de la même manière décrite comme une sorte de miracle, ne serait-ce que parce qu'on l'a retrouvé, on la retrouve au 19e siècle dans une bibliothèque, et il donne à lire les premiers vers de la Cantilène de Sainte-Eulalie, et finalement ce roman un peu austère comme il aime les faire, un peu érudit comme il aime en écrire, finalement devient une magnifique chanson de gestes, une magnifique chanson à la gloire de la langue française et de ce qui deviendra la poésie française, d'ailleurs, avec la Cantilène de Sainte-Eulalie. Et ce livre, finalement, très inactuel, est en réalité très, très, très nécessaire par les temps qui courent, et pas seulement à cause, d'ailleurs, du climat éventuellement politique qui règne, mais simplement parce que la langue française est un enjeu de toujours pour nous.
Et vous évoquez, Étienne de Montetti, des miracles et des faits historiques majeurs. Il faut quand même parler de ce... Enfin, on peut évoquer ce prologue, parce que dans la série on est dérouté dès le premier fragment qui nous amène quand même sur le mont des Oliviers, au pied de la croix sur laquelle le Christ est en train d'être transpercé.
Oui, mais ça,
à Romain.
Toutes les mythologies ont tenté de faire.
Ça part de là.
De prolonger.
Dans ce livre aussi.
Absolument, absolument. Et de toutes les mythologies pour constituer un royaume ont essayé de retrouver des racines, effectivement, dans la Bible, ou dans l'Énéide, ou chez les Troyens, et effectivement, dans l'Europe chrétienne du moment, effectivement, on s'enracine dans l'histoire sainte, puisque les rois sont les descendants de cette histoire-là.
Hein. Et dans l'histoire de Quignard lui-même, hein, dans ses obsessions, et surtout la principale, hein, qu'il formule évidemment mieux que moi de mémoire ici, où étais-je la nuit de ma conception ? Enfin, c'est quand même c'est cette question de l'origine, et de sa propre origine et de l'origine de notre civilisation. Tout ça s'entremêle encore plus, me semble-t-il, dans ce livre-là que dans les ouvrages précédents.
Oui, ça s'entremêle très bien parce qu'en effet, ça commence avec ce cavalier qui passe et qui découvre Longin c'est un soldat romain qui perce le flanc du Christ. Et ça s'achève visiblement par Quignard qui parle à une chouette qui serait la réincarnation d'Arthnide.
Oui. Vous avez un peu divulgaché, c'est vrai.
Mais ce qui est très intéressant, je crois, c'est qu'en fait, pour relier tout ça, presque tous les 4 ou 5 premiers chapitres commencent par le même mot, jadis. Et ce jadis-là, pour les lecteurs, pour les Fernand Quignard, c'est un mot très important parce que, vous savez, c'est comme ça qu'il y a eu le Goncourt en 2002, avec l'ouverture des royaumes, avec la conquête du jadis. Le jadis, c'est ce qui est propre à l'homme et qui est intemporel. C'est cette il a des images pour Quignard pour l'expliquer. C'est une sorte de volcan qui est toujours qui fonctionne toujours, mais qui est complètement caché en nous. C'est cette part vraiment d'humanité presque bestiale, presque sauvage que nos civilisations émoussent lentement. Et donc il est toujours à la recherche de ça, c'est-à-dire du jadis. À la fois dans le jadis et du jadis de maintenant. Et c'est pour ça que finalement, même tout ce cycle des réincarnations qu'on voit dans ça, c'est aussi un roman sur les réincarnations, c'est à la recherche. On est à la recherche du jadis, de cette... au début, je crois que c'est la vérité, c'est comment est-ce qu'on peut être à la fois avoir une nouvelle langue et en même temps rester un franc qui part dans les forêts. Vous voyez ça, comment on peut être à la fois l'écrivain... j'ai perdu son nom.
Arthnide.
Et son frère. C'est-à-dire les deux à la fois. C'est le désir de Quignard de créer, voilà, d'imaginer un homme qui serait ça.
Étienne de Montetti.
Orthographiquement, Nithard et Arthnide, on est dans l'anagramme, donc c'est les deux facettes d'une personnalité humaine. Quignard est de Verneuil-sur-Avre, et donc il est normand, évidemment, et il évoque Verneuil-sur-Avre dans le livre, et effectivement, il se vit comme quelqu'un qui est l'héritier, confusément, évidemment, de de toute cette histoire. Je connais mal les temps mérovingien et carolingien pour vérifier ce qu'il y a de vrai. je demande pardon. Mais il se vit véritablement comme l'héritier de cette histoire et de cette mythologie normande.
Alors pour celles et ceux qui ont pu être, effet Goncourt oblige, parfois un peu rebutés par la densité, l'épaisseur, et puis le dernier royaume, c'était quand même pas la porte d'entrée la plus facile. Je me rends compte qu'on n'a pas dit que c'était un livre finalement assez court, hein, parce que c'est oui, à peine 200 pages, écrit plutôt gros, un petit format, et parce qu'on dit qu'il y a quand même énormément de choses dans ce livre, ce qui est vrai, on retrace l'histoire de la civilisation et l'innocence de la langue française, mais tout ça se fait quand même, je trouve, avec une facilité de lecture qui a, enfin, toute relative, on est quand même chez Pascal Quignard, mais enfin, il se donne, me semble-t-il, beaucoup plus facilement que certains autres ouvrages, disons, oui, similaires chez Quignard.
Oui, puis il a choisi le ton du roman d'avant, pas d'aventure, mais quelque chose qui est conte, assez alerte, avec beaucoup d'images, beaucoup de couleurs, la neige, le froid, et à part, j'avais signé quelques latinismes, et à part quelques éléments érudits, il y a toute une histoire, et on se raccroche très très souvent à une anecdote, un portrait qui est fait. C'est effectivement, c'est un Quignard facile.
Non, je le dis parce qu'il faut quand même prévenir nos auditeurs aussi.
Oui, Quignard s'est très bien ajusté les difficultés. On avait parlé, je crois, de son dernier livre, c'était La critique du jugement, qui était beaucoup plus compliqué, mais qui était passionnant. Mais c'était, qui était un essai. Dans Dernier Royaume, c'est peut-être plus compliqué. Les derniers, Mourir de pensée, il fallait vraiment s'accrocher. Ici, on est vraiment dans un livre, qui se lit vraiment comme une sorte de chronique, de chronique sur l'histoire, sur notre histoire, avec des choses passionnantes. Parce que du coup, je suis allé vérifier, Arnim et Itnar et Nir existent vraiment. Existe réellement.
Mais non.
Ah, mais bien sûr. J'ai vérifié ce matin.
Je fais ce genre de vérification là. Ça m'a même pas traversé l'esprit.
Et j'étais très surpris moi aussi. Mais c'est ce sujet qui est venu là. C'est un sujet parfait pour lui.
Ah, vous connaissez Lucille Comeau ?
Il y a eu un excellent documentaire de la Fabrique de l'Histoire il y a peu sur Nita.
Ah mince, c'est vrai, alors, oui, excellent. Et c'était un matin où à 9h, j'étais pas là et j'ai pas dû faire le bon podcast alors. Ah oui, donc, mais voilà, on apprend des choses en écoutant France Culture, c'est bien Lucille Comeau. Vous avez raison, écoutez cette excellente émission d'Emmanuel Laurentin et toute son équipe. Quelques mots encore, Laurent
Ménès ? Oui, je voudrais rajouter sur le titre qui est au début, qui est un peu rêche, un peu sec.
C'est parce qu'il avait envie qu'on dise les larmes de Pascal Quignard, je suis sûr qu'il avait envie d'entendre ça dans nos bouches.
Mais je trouve que c'est un roman qui les provoque presque. Il y a des très beaux moments émouvants, ce qui est assez rare aussi chez Quignard.
Ah oui.
Notamment, il y a un frère Lucius amoureux des animaux et des chats. C'est magnifique.
À la place des animaux.
Voilà, la place des animaux est vraiment très très belle. Et puis il y a moi quelque chose qui a presque fait venir mes larmes.
Et Dieu sait que vous pleurez pas facilement.
Voilà, et voilà, Dieu sait si
c'est un dur à cuire.
Voilà, exactement. La fin, lorsque le frère de Sauvage voit en songe la femme qu'il a aimée et qu'elle lui fait beaucoup de reproches, c'est vraiment splendide. C'est vraiment un écrivain au sommet, des mots très simples, très, très brusques, très violents.
Étienne de Montetti, dernier mot.
Je souscris absolument à l'enchantement, même si effectivement, ce terme « les larmes » est un petit peu trop factuel, un peu trop précis pour enfermer ou enserrer un livre aussi vaste. Il aurait pu appeler ça « Sans tambour ni trompette », mais on aurait peut-être trouvé ça un peu banal.
Martin et Littar, ça aurait été peut-être plus dur à dire encore. Oui. « Les larmes » de Pascal Quignard, ça y est, je l'ai encore dit, publié chez Grasset.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Nous parlerons tout à l'heure de L'Éveil, le livre de Lynn Papin, publié chez Stock. Nous évoquerons aussi plus rapidement La main de Tristan d'Olivier Steiner et Penjam d'Éric Descott. Pour l'heure, suivons Lucille Comeau dans Le Petit Salon. Et ce soir, Lucille Comeau, l'idée de ce petit salon vous a été soufflée par Florent Georgesco, pas plus tard que la semaine dernière.
Tout à fait, Florent Georgesco qui s'étonnait la semaine dernière de ce que le dernier livre de Benoît Dutertre soit affublé du qualificatif de roman en couverture, alors que selon lui, ce ne serait absolument pas un roman. Autre cas problématique de la rentrée littéraire, le livre d'Yvan Jablonka, que certains appellent essai, d'autres récit. En tout cas, le livre est dans la sélection du Goncourt et du Renaudot et vient de recevoir le prix littéraire du Monde. Ce qui pose d'ailleurs des questions intéressantes sur la place de l'essai, dedans, dehors ou en lisière de ce qu'on appelle littérature, dans les journaux et le petit monde de l'édition. Le problème aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est la question de la responsabilité de ce qualificatif à poser sur la couverture. Qui décide du genre d'une œuvre littéraire à une époque où la question du genre est devenue de toute façon problématique. Est-ce que le plus légitime à décider de cela est l'auteur? Là, les attitudes varient. Certains sont agacés quand on leur demande de faire rentrer leur œuvre dans une catégorie qu'ils jugent obsolète ou inexacte. Certains autres, au contraire, y tiennent. Par exemple, ceux qui jouent le jeu de la fiction inspirée de la réalité et qui, pour mettre à distance le réel, justement, préfèrent déjouer la question du réel ou de la sincérité. On pense à Christine Angot, par exemple. Ça devient une sorte de jeu, pas d'ailleurs toujours très intéressant ou fructueux d'un point de vue littéraire. J'avoue partager avec Florent Georgesco une forme d'agacement face à cet usage de la catégorie roman ou encore récit qui ne veut absolument rien dire la plupart du temps. Il y a bien des fois où c'est une clé de lecture utile. Je pense par exemple au terme de roman en vers, entre guillemets, sur la couverture des Amours Chinos, le dernier livre du poète Christian Prigent, qui guide la lecture d'une suite de poèmes ardus et lui donne une vraie trajectoire chronologique. Ça fait partie du projet esthétique. Mais la plupart du temps, la catégorie sur la couverture est plutôt une déroute ou un leurre assez vain. Finalement, je me demande s'il ne se serait pas mieux définitivement de délaisser des catégories littéraires et de s'en cantonner au terme de « livre » qui ramène l'œuvre à sa condition d'objet multipliable et interprétable par tout un chacun.
On pourrait marquer en dessous de chaque titre « livre
oui. » hein, sur la couverture. Ceci est bien un livre.
L'Expo Magritte oblige, qui vient d'ouvrir, et on en parle la semaine prochaine, me semble-t-il. Mais c'est vrai que, alors, vous avez cité Christine Angot, c'est un cas tout à fait à part qui tient absolument à ce qu'il soit écrit roman sur ses livres. Enfin bon, il y a beaucoup de façons d'entrer dans cette question que vous soulevez, Laurent Nunez.
Oui, non, l'actualité faisait que d'un coup je songeais à des expressions comme roman national ou récit national.
Vous êtes obsédé, hein.
Non, mais qui ne sonnent pas du tout pareil.
Ouais,
et on le voit parce qu'un roman, roman, il y a une part d'imaginaire peut-être beaucoup plus forte ou en tout cas qui est dedans, alors que dans le récit, on y sent quelque chose à la fois de plus personnel, de moins imaginatif, de plus subjectif. Ce qui pose des vrais problèmes. Laetitia ou la fin des hommes de Jablonka, c'est un essai, mais c'est
pas
un roman.
Il est pas sur une liste de prix en catégorie essai aussi.
Ah bien sûr, oui, il est à la fois un essai.
Essai ou je pense
qu'il est à la fois dans un essai et
en même temps
un roman. C'est pas un roman, c'est un essai et un récit justement à la fois. Un récit parce que Jablonka très souvent à la fin se met à parler de lui à la première personne et à expliquer comment Laetitia aurait pu être d'ailleurs une de ses filles, etc. Et tout. C'est ce que ne ferait pas ordinairement un historien qui cacherait le jeu, la subjectivité. Après, vous savez, Quignard est jamais très loin de tout ça. Quignard dit que le roman, c'est l'autre de tous les genres. Donc c'est ce qu'il est devenu. C'est-à-dire quand quelque chose n'est pas un essai, quand c'est pas un poème, quand c'est pas une pièce de théâtre, c'est un roman. Et pourtant, dans un roman, on peut mettre une pièce de théâtre dedans, on peut mettre un poème, etc. Pour l'instant, on sait juste que c'est un qualificatif propre encore à faire vendre et qu'il vaut mieux mettre roman dans la couverture d'un livre plutôt qu'autre chose. Les gens
la raison fondamentale, c'est ça?
Oui, je suis pas très sûr que ça fonctionne, mais en tout cas c'est la raison que me donnent les éditeurs, c'est ça. Les gens ont besoin d'évasion et donc roman marche mieux que essai personnel sur moi.
Étienne de Montetti.
Oui, dans la réponse, il y a effectivement cette espèce de facilité que les éditeurs ont en mettant roman pour classifier. Mais alors, quand tu as donné la définition du roman, bon, Quignard la donne un peu par les mots, le roman, après tout, c'est un genre large. Certains auteurs de nouvelles mettent roman et en expliquant qu'il y a une sorte de logique qui permet.
Dans le recueil.
Voilà, certains, pour écrire des souvenirs, stricto sensu, mettre roman parce qu'il s'accorde cette espèce de part de distance. Christine Angot, effectivement, l'assume. Benoît Duterte aussi. Je pense qu'il y a, au mois de septembre, quand on publie un livre, ce mot roman qui fait que des listes de prix s'intéressent ou non à vous. Donc c'est des toutes petites choses de classification de libraire. Moi, j'aimerais que beaucoup de livres soient sans qualificatif sur la couverture, après tout. Et ça serait très, très bien, sauf à nous dire que le lecteur est dérouté. Mais quand on prend un livre, on commence par le lire avant même de savoir si on est sur un roman ou sur un essai ou une pièce de théâtre. Je pense que c'est une facilité contemporaine à des fins de classification commerciale en librairie. Hein.
Lucille, comment ?
Moi, la question que je me posais, c'était vraiment de cette facilité-là, qui est une forme du coup de mollesse aussi, parce que, par exemple, publier une série de souvenirs et apposer le mot roman dessus, c'est une forme. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une manière de ne rien assumer dans la posture d'écrivain. Donc, je me demandais si vraiment ça venait de l'éditeur et que c'était une stratégie commerciale, ou si c'est. Enfin, est-ce que les auteurs sont consultés, par exemple, sur cette mention sur la couverture ?
Je pense, j'ai un exemple très précis, qui sont des souvenirs d'un écrivain qui s'appelle Jean-Marie Roire, qui a écrit des souvenirs d'ailleurs passionnants, parce que sa famille est liée à Valérie, est liée à toute la peinture du 19e siècle. Ça fait une histoire familiale extrêmement riche. Il a écrit roman, et il me semble avoir entendu assumer devant des tas de micros ce mot de roman, probablement pour s'autoriser une forme de liberté, non pas dans la manière dont il racontait, mais ce qu'il racontait, ce qu'il ne racontait pas. C'est un peu spécieux pour dissimuler, d'ailleurs on ne se demande pourquoi, parce que ce n'était pas des règlements de compte, mais pour dissimuler des mémoires derrière ce mot roman. Peut-être que mémoire, ça faisait trop chenu, trop académique pour Jean-Marie Roire, je ne sais pas.
Mais dans le cas de Christine Angot, que j'évoquais, le qualificatif de roman, c'est pour dire que c'est de la littérature. Hein. C'est ce qu'elle dit, elle répète sans cesse.
C'est l'inverse
de ce que voilà, vous vouliez dire. Comme
l'autobiographie, c'est de la littérature.
En quel honneur, voilà, le roman serait...
Je reprends ses propos ici pour dire, mais est-ce que c'est vous dans le livre ? Donc, ben non, c'est un roman. Je suis un écrivain, donc mais je l'entends tout à fait. Alors on peut lui opposer ce que vous venez de dire à l'instant, mais
si ça peut lui permettre d'éviter des procès,
ça lui a pas à éviter des procès pour autant.
Voilà, comme pas sûr que les juges s'arrêtent à ce petit mot sur la couverture.
Ah oui, c'est ça. En fait, il faudrait convier des magistrats, des avocats aussi pour ce type de questions dans le petit salon. Moi, enfin non, vous n'avez pas ça comme capacité. Vous n'avez pas une capa de droit, Laurent Nunez, non ?
Non, pas non, rien.
Non, mais enfin, c'est vrai que les mondes de l'édition se retrouvent souvent.
Il me semble que la recherche du temps perdu, quand ça a été publié, quelqu'un comme Cocteau s'est amusé à ce petit jeu complètement vain de savoir la part de la littérature et la part de la chronique mondaine. Et en fait, étant trop familier du monde de Proust, il est passé complètement à côté du texte parce qu'il n'a pas réussi à faire cette espèce de saut où il ne fallait pas voir telle personne derrière tel personnage, etc. Donc c'est un vieux, vieux débat. Qu'est-ce que l'écrivain met comme filtre déformant, c'est-à-dire la littérature, entre son livre et ce qu'il a vu, entendu, senti, ressenti.
Ce qui fait que, dans ce cas-là, on peut ne pas voir le grand texte que c'est. Et à l'inverse, il arrive aussi très souvent que des livres sans grand intérêt puissent intéresser le Landerneau parce qu'on y reconnaît tel ou tel. Ça peut être l'effet inverse du roman qui sert à alimenter la chronique, mais qui ne nourrira pas les rayonnages des bibliothèques futures.
Oui, parce que le roman est intéressant. Le roman à clé n'est pas intéressant, puisqu'en fait, il sert juste de prétexte juste de prétexte presque juridique. C'est-à-dire, je peux critiquer, je peux dire ce qui se passe dans le petit milieu parisien sans que des avocats me l'interdisent. Il arrive à ses romans ce qu'on s'attend, ce à quoi on s'attend. Hein, ils sont lus et puis ils disparaissent.
Dans le cas de votre ami Édouard Louis, sur son deuxième livre, est-ce qu'il y avait un genre indiqué ? Non, je dis votre ami parce que vous l'avez franchement bien accueilli, ce texte-là. C'était ironique. Il y avait marqué roman, croyez-vous ?
Je ne sais plus. Je crois qu'il y avait quand même... Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je fais des bêtises, mais je me rappelle de sa première interview où il disait « Il n'y a pas un gramme de fiction dans ce livre. »
Donc, oui, lui assumait, avec beaucoup d'ambiguïté d'ailleurs, je ne pense pas qu'il se serait retranché si facilement derrière un roman qui est un genre beaucoup trop précis, beaucoup trop restrictif certainement pour son génie, je pense.
Ouais. Bon, il
reste dans l'ambiguïté de manière beaucoup plus habile.
Bon, il faudrait qu'on recherche le livre pour voir s'il y a marqué quelque chose sur la couverture.
Hélas, nous ne l'avons pas gardé comme les romans à clé dont parlait à l'instant Laurent Nunez.
On fera un post-scriptum du Petit Salon une prochaine fois, une fois qu'on aura retrouvé ce livre-ci, et on verra ce qu'il y avait sur sa couverture. Le cas de Christian Prigent, effectivement, les romans en vers et les poèmes en prose aussi, ça peut arriver. Mais ça, c'est quelqu'un qui joue si souvent avec la langue et si bien, à mon sens, qui a aussi de la facétie, toujours, chez Christian Prigent, en même temps qu'un très grand sérieux, finalement. Bon, eh bien, écoutez, il y a marqué petit salon, on referme et on passe à la suite. C'est l'heure à présent. Oui, on continue la discussion. Est-ce qu'il y a marqué quoi sur le livre d'Annie Arnaud? On peut continuer si vous voulez.
C'est le post-scriptum. Il y a marqué
mémoire. Non.
Mémoire de jeune fille,
c'est le titre du précédent. Mais est-ce qu'il y a un genre dessous? Récit, roman? Bon, on a plein de vérifications à faire. Hein. On fera ça au bureau. Donc, l'heure des recommandations à présent, des critiques présents ce soir. Alors, il y a une auditrice qui nous avait écrit pour dire « c'est un scandale, vous n'avez pas encore parlé d'Olivier Steiner, ce génie. C'est parce qu'il est plus chez Gallimard. » Bon, alors, on peut avoir plein de bonnes, mauvaises raisons de ne pas parler des livres. C'est juste qu'il y en a... Des piles sur nos étagères et dans les librairies. On avait effectivement parlé d'Olivier Steiner et de son premier roman ici, qui était paru chez Gallimard. Je ne peux pas dire que j'en avais des grands biens. Vous avez choisi de parler de ce nouveau livre, Laurent Nunez.
Oui, tout d'abord, je veux vous rassurer, ce n'est pas moi qui vous ai écrit pour vous dire ça. Oui, Olivier Steiner publie un nouveau livre, La main de Tristan. Et en effet, ce n'est pas chez Gallimard, c'est intéressant. C'est aux éditions des Buscla. C'est intéressant parce
genre,
que
il n'y a pas de genre sur la couverture. Je regarde à l'intérieur.
Non. Hein. Oui, non, ça doit être.
Non, alors, il ne faudrait pas que je regarde.
Appelons ça un récit. Oh, il n'y a rien de.
Il n'y a rien marqué.
Il n'y a jamais rien de bizarre.
C'est dédié à Laurence Tardieu, tiens.
Oui,
ça me le rend sympathique.
Je vais vous expliquer pourquoi. Visiblement, Olivier Steiner publie La main de Tristan, qui clôt un triptyque qui avait commencé avec Bohème, dont on avait parlé ici il y a quelques années. Bohème qui racontait sa rencontre avec. C'était un compositeur de un dramaturge je crois ou un créateur d'opéra. C'était de l'autofiction, et c'est-à-dire que c'était la réalité transvasée dans la fiction, et ça racontait sa relation, sa rencontre avec Patrice Chéreau. Puis c'était chez Gallimard. Le livre avait une belle presse en tout cas, et même un prix si ma mémoire est bonne. Le deuxième livre, La vie privée, à l'Arpenteur, si ma mémoire aussi est bonne, racontait encore un autre moment de la vie d'Olivier Steiner. Et voici qu'il publie le troisième, La main de Tristan, qui est cette fois plus dans l'autofiction, dans le réel, si on peut dire. C'est-à-dire que Patrice Chéreau est là, présent. Il s'appelle Patrice Chéreau. Olivier Steiner raconte leur rencontre, l'échec de leur rencontre, les SMS, les invitations à Séville, dans le sud de la France, dans d'autres pays, etc. C'est un livre passionnant, et qui m'a encore plus passionné parce que c'est un livre qui a visiblement failli être interdit. Ça s'appelle La main de Tristan, ça s'appelle pas La main de Chéreau. Dans la quatrième couverture, pas une fois il n'y a le mot de Chéreau. Le livre, je le sais pour avoir discuté avec l'auteur, a été refusé dans presque toutes les maisons d'édition. Par respect pour Chéreau. C'est le livre le plus respectueux qu'on puisse trouver sur cet artiste, justement. La main de Tristan, c'est l'histoire d'un gamin, Olivier Steiner, très jeune, qui rencontre Chéreau et qui ne peut pas lutter contre ce type qui est un génie, qui est une force qui va, qui ne pense qu'à l'art, qui fonce. Et Olivier Steiner est rien du tout, c'est un petit vendeur à l'époque, dans l'île de la Cité, un vendeur de souvenirs, qui voudrait écrire, qui sait pas comment faire. C'est un livre très inspiré d'Annie Ernaux et aussi sur le problème de rapport de classe. Parce que Steiner se considère vraiment comme très inférieur à Chéreau, pas qu'il tout réussit tout d'un coup. Et donc voilà, ça raconte vraiment comment on rate une histoire Parce que justement, parce que le rapport de classe est là, et le livre a été refusé partout, et c'est grâce à Laurence Tardieu, voilà, qu'il a été accepté aux éditions des Buscla. C'est pour ça, à mon avis, que le livre lui est dédié. C'est un livre où on retrouve toute la patte d'Olivier Steiner, c'est-à-dire que il y a quand même, il y a quelques défauts, évidemment, d'ego, pas de misérabilisme, en tout cas de rapport à soi très très noir, mais en même temps il y a une patte, un vrai style.
Bon, je suis curieux de le lire, circonspect, hein, l'énoncé, parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait. Mais vous me donnez envie de lire La main de Tristan d'Olivier Steiner aux éditions des Buscla, vous dites ?
Exactement.
Bon, Buscla, moi je disais, très mal. Punjab, ça c'est le choix d'Étienne de Montetil, livre d'Éric Descott aux éditions de Fallois.
Oui. Et là, on va quitter l'île de la Cité et Patrice Chéreau, mais sans quitter le problème de la définition du roman, puisque c'est un livre qui s'appuie sur l'histoire. Et sur l'histoire, avec ce qu'elle nous révèle, et puis aussi ce qu'elle nous cache ou ce qu'elle ne nous dit pas, et c'est là où le romancier prend le relais. L'histoire part d'un fait authentique, ce sont d'anciens soldats de Napoléon qui, après la chute de l'Empire, vont se disperser dans le monde entier.
Ça, ça vous plaît, ça.
Et ça me plaît.
Napoléon.
Parce que c'est une époque où tout était possible. Et ces quatre personnages, notamment l'un d'eux qui s'appelle le capitaine Allard, va partir en Inde, va se rencontrer un hiérarque, un empereur sikh, et va l'aider avec ses trois amis. Donc les quatre petits Français vont aider le sikh à établir un immense empire au cours du 19e siècle. Et ils vont être élevés au plus haut, à la plus haute dignité de la civilisation sikh. Et c'est une histoire tout à fait authentique, dont on connaît quelques éléments, parce que la légende ou la geste de ces personnages est parvenue jusqu'à nous, mais on ne sait évidemment pas le détail de ce qui s'est passé. Et Descott s'est emparé de cette histoire pour raconter, un peu à la manière de l'homme qui voulait être roi, enfin tous ces grands récits du 19e siècle avec les Kipling, les Conrad, etc., l'histoire de ces hommes à qui les circonstances historiques et puis l'époque aussi permet d'avoir des destins qui n'étaient pas forcément écrits au départ. Et ce qui est amusant, c'est, prenons pas le hasard, d'ailleurs si ce livre paraît actuellement, une délégation d'Inde, prenons des Sikhs, est venue il y a quelques jours, je l'ai appris par la presse, dans la ville natale d'un de ces soldats, à l'art, pour ériger un buste et faire toute une cérémonie à la mémoire de cet homme qui est inconnu en France, mais qui est une personnalité très glorieuse en Inde. Et pour la petite histoire, cette cérémonie a eu lieu donc sur le lieu de naissance de Allard, qui est un endroit qui ne manque pas de personnalité, puisque ça s'est passé à Saint-Tropez.
C'est évidemment tout à fait inattendu. Éric Descott, c'est un nom qui m'est quand même familier, non ?
C'est un écrivain qui a publié un certain nombre de romans et puis qui a été longtemps journaliste dans la presse française et donc qui publie régulièrement des livres qui souvent s'inspirent de l'histoire, effectivement.
Oui, parce que l'époque mérovingienne, c'est pas votre truc, mais le 19e, ça, Étienne de Montetil, davantage.
C'est aussi assez intéressant.
Vous auriez aimé être un hussard, je suis sûr. En tout cas, Punjab d'Éric Descott, paru aux éditions de Fallois.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Nous poursuivons cette dispute littéraire du vendredi soir avec un premier roman, celui de Lynn Papin, qui fêtera en décembre son 21e anniversaire, ce qui en fait, on imagine, la Benjamine de cette rentrée, pour un livre intitulé « L'éveil » et publié chez Stock. je m'étais demandé quel serait le premier roman dont on parlerait partout en cette rentrée. Alors, il n'y a pas de phénomène écrasant hein, cette année, il n'y a pas de Jonathan Little ou il n'y a pas d'Edouard Louis, mais il y a Gaël Faye et Lynn Papin. Donc, ils sont quand même deux, ce qui est mieux que d'habitude où il y en a un, ou Aurélien Bélanger d'une autre façon. Ou... Non, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ah, faites oui. pas la grimace. Il y a toujours un premier roman dont tout le monde parle. Parfois pour de mauvaises raisons, parfois pour de bonnes. Donc, Lynn Papin, c'est elle qui est à notre sommaire ce soir, c'est Étienne de Montetti qui a choisi d'inscrire ce livre à notre programme. Alors, comment est-ce que vous l'avez repéré, vous? Est-ce que c'est la contamination? Est-ce que vous l'avez lu au mois de mai quand on reçoit les premiers
ouvrages? Oui, j'ai lu comme beaucoup de mes camarades, non, au mois de juin. Peut-être que c'est son tout jeune âge, même si c'est aussi une valeur assez relative.
Oui.
Mais c'est tout simplement une coïncidence, c'est qu'elle a exactement l'âge de ma fille et que je me suis demandé, moi, le vieux père de famille, ce qu'une jeune romancière de l'âge de ma fille pouvait bien écrire comme premier roman et je me suis plongé...
Ça vous a inquiété peut-être alors après, mais on va en reparler.
le critique a apprécié, le père, père de famille a frémi.
Oui, c'est ça, a blémi.
A blémi. Mais je suis rentré dans cet univers qui est un univers... qui évidemment est assez attirant, c'est le Vietnam, c'est Hanoï, et je suis tombé sur un livre qui m'a assez déconcerté, assez plu, et j'ai voulu véritablement encourager cet auteur, sans savoir s'il y aurait une faveur sur elle, tout d'un coup des encouragements, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une maîtrise, une ambition littéraire dans ce livre. Ça se passe à Hanoï. C'est un livre à plusieurs voix, qui est vraiment bâti sur les voix. Il y a plusieurs personnages. Il y a Juliette, qui est la fille de l'ambassadeur d'Australie au Vietnam. Il y a Raphaël, il y a Laura. Très peu de noms circulent dans ce livre. Et puis, c'est une sorte de va-et-vient entre les personnages. Et puis surtout, des voix alternes pour raconter l'histoire. Et on essaye de suivre à travers ce que chacun ressent dans cette ville, Hanoï, qui est bien décrite, probablement l'auteur connaît bien cet endroit.
Elle y a grandi, aliénée,
voilà. Sans tomber d'ailleurs dans l'orientalisme du roman populaire des années 30, dans Jean Hougon.
Oui, parce que je vous rappelle qu'elle est née en 95, donc elle ne peut pas tomber tout de suite dans ce truc.
Non, mais elle aurait pu avoir lu toute cette littérature un peu de colonialiste, dans laquelle il y a certainement beaucoup d'évocations, de la rue Katina à Saigon, etc., etc. Non, c'est fait dans le Hanoï d'aujourd'hui, cette ville qu'on imagine trépidante, évidemment saturée de chaleur. Et puis on essaye de suivre ces personnages dans leur pérégrination, dans les « je t'aime, moi non plus ». D'une certaine manière, ce qu'ils font est moins intéressant que ce qu'ils sont et ce qu'ils ressentent, toute cette histoire qui les guide. Et évidemment, sous la plume d'un tout jeune écrivain de 21 ans, on ne peut pas ne pas être assez époustouflé par son art du récit. Et ça a été mon cas.
Alors techniquement, j'ai vu qu'elle avait posté son manuscrit par la poste au mois de décembre l'année dernière, donc elle en avait 19 au moment où elle a posté son manuscrit, puisque je rappelle qu'elle est née, je crois, le 30 décembre, ai-je lu, 1995. Laurent Nunez, Lynn Papin, l'éveil, parce qu'on parle du livre, hein, la biographie de l'auteur, c'est une chose. Mais c'est le livre qui nous intéresse.
Oui, mais d'ailleurs c'est intéressant, parce qu'au début, j'avoue que j'étais un peu circonspect à cause de la biographie, c'est-à-dire je me suis dit ça, Minou Drouet a ressuscité, et puis j'ai commencé à lire le livre. Et autant, en effet, le premier chapitre me semblait mettre en place des éléments connus de tous, une sorte de trio amoureux, etc. Dès le deuxième chapitre, tout change. C'est extrêmement bien fait, parce que l'alternance des points de vue dont parlait Étienne de Montetti est liée au fait que les gens qui vivent des histoires ensemble ne vivent pas la même histoire, visiblement. Et que on ne suit pas juste dans la conscience d'une jeune fille qui tombe amoureuse. C'est pas juste ça. De l'autre côté, tout d'un coup, il y a, on est dans la conscience de cet homme, de ce serveur dont on ignore le nom, qui mène encore plus de mystère, et qui, lui, n'a pas du tout vécu la même histoire qu'elle. Et ça, c'est ça qui est très, très bien fait, je trouve. C'est que, tout d'un coup, y a en effet une sorte de maturité, On n'est pas enfermé dans un seul esprit, et puis c'est puis.
Et pas dans une seule langue. C'est ça qui m'a vraiment retenu. C'est-à-dire que j'ai eu un peu de mal au début parce que je me dis bon, c'est quand même pas très bien écrit, tout ça, ça sonne faux, certains dialogues. Et puis en fait, il y a une vraie alternance. Et c'est parce qu'il y a des voix qu'on identifie au fur et à mesure assez facilement, en fait. Oui. Ce qui veut dire que voilà, il y a un travail d'écrivain là derrière.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire vraiment, comme les personnages n'ont pas vécu la même histoire, et comme ils n'ont même pas la même histoire, le même passé, eh ben, ils expliquent différemment le réel. Et du coup, ce qui est très bien fait, même, c'est que même les personnages, on croit les avoir catalogués au début d'une histoire, notamment ce serveur que je voyais un peu cynique, un peu m'en foutiste, et qui tout d'un coup révèle une profondeur qu'il va payer d'ailleurs, hein, qui va lui coûter cher. J'ai vraiment été surpris. Ça a été une belle surprise, alors que j'avoue, je regardais ça un peu bizarrement, un peu de loin. Voilà. Il faut ajoutons juste qu'elle vient juste d'avoir le prix de la vocation 2016. Voilà, qui est toujours un prix qui a quand même assez bon goût.
Oui, bah, qu'il prouve encore une fois, Étienne de Montetti.
Oui, pour une jeune romancière, il y a une énergie générale dans le livre, outre la maîtrise technique, effectivement, de cette alternance de voix. Le livre est conduit de bout en bout. C'est vrai qu'au bout de quelques chapitres où les voix alternent, je m'étais demandé comment donner des coups de fouet à ce livre, comment tout d'un coup passer à quelque chose de plus. Eh bien, elle y arrive, elle introduit à un moment donné ça s'appelle des didascalies, quand l'auteur intervient entre parenthèses pour signaler des situations ou des positions. Les dialogues, tout d'un coup, varient. Elle a un sens assez inné pour mener son spectacle, mener la scène qu'elle a mise en place. Et de bout en bout, le lecteur, même s'il peut être un petit peu perdu, même si effectivement ce ton général qui est une sorte d'oral, très travaillé, hein, tout le monde s'exprime, donc il y a ce ton, effectivement, on peut se dire, tiens, c'est mal écrit, en fait, c'est bien écrit à mal parler.
Absolument.
C'est très, très subtil.
Mais il faut le temps de s'en rendre compte.
Et exactement, il faut accepter un petit peu d'être déstabilisé, puisque les personnages parlent, ils sont pas nommés, il y a pas en tête de chapitre, c'est un tel qui parle. Donc, elle demande un tout petit peu d'attention et de concentration à ce lecteur. Une fois qu'on est dedans, on est dans une musique, une poésie, il y a des formules pour définir une situation ou un pays, des choses assez heureuses d'ailleurs, vraiment elle a une sorte de don inné de la langue, et à ce moment-là elle s'impose, elle impose son histoire avec une maestria, une sorte d'autorité qui est quand même assez époustouflante.
J'en donne un petit aperçu. Alors, j'aime bien, par facilité, mais aussi parce que ça veut souvent dire quelque chose, lire le début des livres. Ici, ça ne me semblait pas du tout judicieux. Donc, je suis presque au milieu de ce livre-là, et on ne dira pas qui parle et qui parle de qui. Mais juste comme ça, c'est quelques phrases. C'est le chapitre 13. « C'est à partir du moment où il a arrêté de travailler qu'il a commencé à devenir là et à se détacher. Au fond, c'est peut-être même plus la lecture que l'absence de travail qui a causé ce détachement. » Ou plutôt la seconde a dû le déclencher, et la première l'achever complètement. Maintenant, oui, maintenant, c'est extrême dans sa cave, sans bouger, sans parler, sans rien regarder. Mais quand j'y repense, les premiers signes de ce détachement se sont manifestés dans sa façon de lire sans arrêt, et de plus en plus, même en ma présence. Je ne me rendais pas compte qu'il m'oubliait pendant ses lectures au début, puisqu'il disait lire à haute voix pour moi. Il me semblait que sa voix tendait entièrement vers moi et que le livre, les phrases, n'étaient qu'un prétexte à la parole. Il s'en servait pour me faire entendre sa voix. Lui qui ne disait jamais rien de sa vie, de son passé, de ses habitudes, de ses envies, il me disait des phrases écrites par les autres, à la place. Mais le but seul, pensais-je, était de me parler à moi, de me verser le son de sa voix. C'était un don, cette lecture, et nous nous fichions bien du livre lu. C'est ce que je me disais, je ne prêtais d'ailleurs pas vraiment attention au contenu des livres, au sens des phrases. Les titres même des bouquins, je ne saurais me les rappeler. Il n'y en a pas un seul qui me reste en tête. Au début, il lisait et il levait la tête vers moi, me souriait, s'assurait que je suivais. Il me demandait si je comprenais, ce à quoi je répondais que je n'étais pas idiote. Alors il me rassurait, disant qu'il doutait non de ma capacité à comprendre, mais de la sienne à énoncer. On riait encore entre deux pages. Puis, petit à petit, il n'a plus levé la tête, il ne s'est plus assuré de rien. Il lisait à haute voix, mais pour lui seul, sans plus me regarder. Bon, je n'ai pas choisi cet extrait tout à fait pour rien, parce qu'on y parle quand même de livres, de lecture, de littérature, d'écriture, et que, à l'évidence, pour écrire un livre tel que l'a écrit Lynn Papin, il faut avoir beaucoup lu, on imagine. Laurent Nunez ?
Oui, c'est pour ça que quand vous le lisiez, du coup, tous les articles qui ont paru sur elle la rapprochent à tort de Duras.
Et Sauf l'irréductible, Étienne de Montetti.
Oui, c'est pour ça.
Parce que Hanoï, jeune fille.
Voilà, Hanoï, jeune fille, avec un homme plus
vieux. Aux yeux de chat.
Oui, avec un ventilateur qui tourne au-dessus.
Et qui fait moite.
Mais alors que là, quand on lit cet extrait-là, ça rappelle beaucoup, on y est toujours, désolé, mais ça rappelle toujours un roman de Quignard qui est Le Lecteur, oui. Où un homme disparaît dans la lecture. Mmh. On est beaucoup plus là-dedans et on est beaucoup plus on a la limite d'entre Blanchot et Lacan, vous savez, Lacan appelle ça la fanicie, c'est la disparition du sujet. Vous avez lu Le Milieu, on s'attendait absolument pas à ce moment-là.
Ah non, du tout.
À ce que tout d'un coup, ça raconte comment on peut tout d'un coup, mourir d'aimer, mourir de lire, c'est-à-dire disparaître de sa vie. C'est bien pensé. Enfin, moi, j'avoue, je suis un peu épaté.
Étienne de Montetti.
Oui, on oublie très vite le contexte d'Hanoï et de tous ces détails qui pouvaient laisser à penser qu'on était dans la grande tradition du roman d'Extrême-Orient pour vraiment véritablement rentrer dans l'esprit de personnage, de tout jeune personnage. Hein, il y a une sorte d'incertitude et c'est très bien rendu par son style qui est déroutant et capricorne, comme on dit, avec des sauts comme ça. Pourquoi ? Parce qu'elle elle exprime assez bien les intermittences du cœur, les incertitudes qui sont celles de cet âge-là, et elle en fait véritablement là un objet littéraire où les choses ne sont pas seulement dites, mais véritablement exprimées par un style assez, assez époustouflant.
Alors, question annexe, mais est-ce qu'elle se retrouve dans des listes de prix, Lynn Papin, ou son trop jeune âge, peut-être, a pu rebuter...
Je crois qu'elle est dans quelques listes.
Va bien y apparaître.
Oui, il me semble qu'elle est dans quelques listes, pas dans celle du Goncourt.
Un Flore, un Décembre, ou...
Goncourt du premier roman,
peut-être. Même dans le micro, oui, je vais connaître entre nous, mais...
Peut-être le Goncourt du premier roman, oui, juste peut-être encore.
Ah bah ça, ce serait la moindre des choses.
Le Fémina, peut-être. Enfin, ouais. Je sais qu'elle est... Mais ça serait bien. Elle est assez remarquée, et il faut assez vite oublier qu'elle a 20 ans, parce qu'il ne s'agit pas de faire une prime à la Benjamine, mais reconnaître qu'il y a véritablement un livre.
Ah ouais. Est-ce qu'on vous donne envie, Lucille Comeau, de lire Lynn Papin ? Tiens, vous êtes notre première auditrice,
assez.
Finalement.
Assez. Mais je trouve que pour un livre où il faut vite oublier qu'elle a 21 ans, on l'a beaucoup répété.
Bon, d'accord, vous nous faites un reproche directement l'énoncé de cette émission, Laurent Nunez.
Oui, s'il faut trouver un tout petit reproche au livre, j'aurais voulu que le titre contienne... Que le livre contienne plus du titre dans un éveil sensuel que j'ai pas forcément retrouvé. Voilà, c'est cette
ouais,
rencontre
le père
avec
de famille, par contre, voilà. On va vous contredire dans un
mais
instant.
Quand même, il y a c'est au tiers du livre, il y a quelque chose qui ressemble quand même à de l'éveil. Il y a plus d'éveil chez Lynn Papin que de larmes chez Pascal Quignard, quand même.
Bon, oui, il me semble. Bon, alors, ça lui était suffisant, j'aurais demandé un peu plus.
Bon, ça c'est parce que vous n'avez pas le même axe de lecture l'un et l'autre concernant l'éveil, ce livre de Lynn Papin, non, rien à ajouter, qui paraît aux éditions. Édition Stock. Et avant de conclure, nous allons prendre le temps, Lucille Comeau, de nous intéresser au jeu de la dispute. Voilà, tous nos auditeurs et auditrices attendent la réponse à la question que vous posiez hier au soir. Et les gains étaient importants puisqu'il s'agissait de gagner des places de cinéma pour aller voir notre film préféré pour l'instant de la rentrée, Sainero, de Rafi Pisne. Mais c'est vrai, Lucille, très beau film. Important.
J'ai écrit cette question avant de voir le film et du coup, je regrette un peu la question parce qu'elle n'est pas très représentative du film. Mais bon,
la question n'est pas faite pour représenter le film.
Bon, en tout cas, la question est, Sainero est un film sur les Green Card Soldiers, ces hommes qui tentent d'obtenir la nationalité américaine en allant combattre pour les États-Unis. Il existe un camp pour ceux qui sont refoulés. Ce camp est au Mexique. Dans quelle ville ? Et la réponse est Tijuana.
Et ce camp, on l'appelle le bunker, et c'est dans ce bunker que Rafi Pitz a rencontré le principal inspirateur de l'histoire de Nero, Monsieur Ortiz, me semble-t-il, qui a vécu cette difficulté, qui vient d'ailleurs d'obtenir la nationalité américaine, pour finir, ou la récupérer. Parce que c'est aussi ça l'histoire de ce film. Vraiment, je profite de cet instant pour le recommander encore à nos auditrices et auditeurs, s'ils ne pouvaient pas y aller précédemment, qu'ils y aillent en cette fin de semaine. Alors, on fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition L'œil de Baudelaire. C'est jusqu'au 29 janvier au Musée de la vie romantique à Paris. Quelle est la question, Lucine ?
Alors, la question est, dans le salon de 1845, Baudelaire évoque d'emblée un peintre qui est, selon lui, je cite, « le plus original des temps anciens et des temps modernes, qui est-ce ?»
Vous n'avez pas le droit de répondre ici dans ce studio. Mais par contre, vous pouvez nous écrire si vous avez la bonne réponse. Vous nous écrivez, vous ajoutez évidemment vos coordonnées postales. Vous l'envoyez à ce mail et à ce seul mail, auditeurfc@radiofrance.com. Ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Lucille Comeau, Laurent Nunez et Étienne de Montetti, d'y avoir pris part avec moi. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette émission sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou podcaster nos émissions, site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. Il y a bien sûr une page internet spécifique pour le petit salon de Lucille Comeau, un abonnement spécifique au podcast de cette séquence déjà culte, puisqu'on en parle même dans la presse spécialisée. La dispute est possible, je le rappelle, grâce à Lucille Comeau, Daniel Finot, Virginie Le Duo, Josué Morel et Boris Pinault, qui la conçoivent et la préparent à mes côtés. La prise de son était assurée ce soir par Stéphane Desmonts et la réalisation signée Daniel Finot. Je vous retrouve lundi à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant. Nous serons en compagnie de Fabienne Pascaud et Anna Sigalevitch. À notre affiche, Antoine et Cléopâtre, texte et mise en scène de Thiago Rodriguez, est au Théâtre de la Bastille à Paris. Et Don Juan de Molière dans une mise en scène de Jean-François Sivadier à l'Odéon, Théâtre de l'Europe, avant de poursuivre sa tournée. Nous évoquerons aussi plus rapidement le portrait de Lucinda Childs dans le cadre du Festival d'automne à Paris, c'est-à-dire beaucoup de spectacles. Deux expositions, vraiment beaucoup de choses importantes concernant cette chorégraphe. Et puis, nous évoquerons aussi Iphigénie en tauride dans la mise en scène de Jean-Pierre Vincent, qui est actuellement en tournée, qui sera bientôt au Théâtre du Nord à Lille. Tout cela, c'est pour lundi. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.